Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans cette table ronde consacrée aux merveilleux et aux réalités historiques. Donc les réalités historiques sont-elles solubles dans le merveilleux ? Donc je pense que là, nous allons parler peut-être un petit peu plus de fantasy que de science-fiction. Mais bon, on va voir avec nos invités ce qui va se passer. Voilà, donc je vais vous présenter d'abord nos intervenants. Alors nous avons Valérie... Je ne fais pas dans l'ordre, hein, je vais faire... voilà, comme je suis une fille, je vais présenter Valérie Mangin, qui est née en 1973, qui a étudié donc à l'École nationale des chartes, latiniste, historienne, historienne de l'art... Elle n'arrive pas à envisager, ce sont ses propres termes, je pense, conservateur d'un grand musée national. Sa rencontre avec Denis Bajram lui permet de passer de l'histoire aux histoires. Et ses scénarii, en adoptant l'apparence du récit d'aventure, sont de grands jeux historiques, politiques et culturels. Dans la Rome des chroniques de l'Antiquité galactique, la révolution fantastique du petit miracle, je cite, ou le péplum grandiose d'Alix Senator, elle aime à se jouer de tous les codes des littératures populaires. Alors ensuite, nous avons Olivier Ledroit. Donc Olivier Ledroit, après 2 années d'études à l'École supérieure des arts appliqués du Perret à Paris, Olivier Ledroit s'oriente vers le métier d'illustrateur. Il réalise ainsi divers dessins pour des magazines de jeux. Sa rencontre avec le scénariste Froid Deval joue un rôle déterminant dans sa carrière. Les deux hommes s'associent et se lancent dans la BD avec les Chroniques de la Lune Noire. En juin 1997, il adapte la nouvelle Ennemi mortel de Philippe K. Dick. L'univers donc de Olivier Ledroit s'inspire également pour la conception de la Porte écarlate chez Soleil. Voilà. Régis, c'est Godin ou Godin, oui, voilà, pardon, ça, je faisais un nom un petit peu à l'anglaise. Donc Régis Godin commence sa carrière comme instituteur à Amiens. Il enseigne par la suite les arts appliqués, puis les arts plastiques, et rejoint en 2006 l'université Paris 13. Sans rapport avec son engagement littéraire, cette affectation a joué un rôle déclencheur. Et de la lecture, en fait, il va aller à l'écriture. En 2011, il intègre l'université d'Amiens et il poursuit l'écriture de son roman « Le sang des 7 rois », qui est un cycle, hein, Olivier, voilà, pardon, Régis, publié chez La Talente et dont le livre 6 est annoncé pour novembre 2015. Donc peut-être qu'on aura la possibilité d'en parler. Et enfin, Stéphane Plateau, qui a reçu donc au mois de mai dernier le prix des Imaginales, hein, pour donc le meilleur roman. Donc Stéphane Plateau, qui est historien de formation, aime s'abreuver à la source des mythes. Quand il n'est pas en train de réciter l'Iliade ou le Kalevala voix haute en compagnie de harpistes ou de vagabonder sur les routes de l'Inde avec le Ramayana sous le bras, il partage son temps entre l'écriture, la musique et son emploi d'entrepreneur en économie sociale. Voilà. Bien. Et donc, son premier roman, que je cite, Manèche, vient de remporter donc le prix des Imaginales du roman francophone en 2015. Alors, pour cette table ronde, je dirais si nous revenions un petit peu aux origines, c'est-à-dire que le merveilleux et l'imaginaire furent aux sources de l'histoire, et à une certaine époque, il était impossible, enfin du moins jusqu'au Moyen-Âge, il était impossible de la raconter sans le recours aux mythes et aux légendes. Pourquoi ? Moi, la question que je voudrais poser donc aux intervenants, c'est pourquoi les anciennes civilisations ont-elles eu recours au merveilleux pour raconter, finalement, la réalité historique ? Hein ? Pourquoi cet ajout du merveilleux dans la réalité historique ? Ou même la structure qui va toucher donc la structure même de la réalité ? Donc, je ne sais pas, qui c'est qui veut répondre en premier ? Valérie, peut-être ? Oui ?
Oui, je crois qu'il y a beaucoup d'explications à ça, c'est vraiment une vaste question, mais je crois qu'en premier, ça répond à un besoin humain tout simple, qui est de connaître ses origines, et c'est vrai que les civilisations antiques ou médiévales n'avaient pas les moyens simplement pratiques de retrouver leurs origines, on ne pratiquait pas l'archéologie au Moyen-Âge, par exemple, ou dans l'Antiquité, et donc, comme on ne savait rien, bah, il fallait bien inventer, et donc, quitte à inventer, autant se donner des ancêtres merveilleux, je crois que c'est... D'ailleurs, même parfois, quand on connaissait ses ancêtres, on se plaisait à les réinventer sous des formes plus flatteuses, en fait. Pourquoi dire qu'on est... Par exemple, quand on est comte de Toulouse, qu'on descend d'un vague chevalier qui pouvait taper plus fort que les autres et donc fonder une seigneurie, quand on pouvait dire qu'on descendait de la fée Mélusine, voilà, qu'on avait des ancêtres quasiment divins. je crois que ça répond à ces deux besoins-là, connaître ses origines et après avoir des origines flatteuses et pouvoir se mettre en avant grâce à elles.
Puis peut-être aussi par rapport à l'épique, c'est-à-dire le fait de vouloir raconter une histoire légendaire, une histoire qui va véritablement marquer la mémoire des peuples. Donc peut-être rapport au mythe. Stéphane ?
Ben, je pense que ça participe aussi d'une vision du monde où, en l'absence de science exacte, on interprète le monde par... On interprète toute une série de réalités naturelles par l'entremise des esprits et d'éléments fantastiques en général. Et pendant des siècles, pendant des millénaires, ça va rester... Il n'y a pas de distinction entre le merveilleux et le réalisme. Tout ça, c'est la même vision du monde. Ce qu'on considérerait aujourd'hui comme surnaturel, ça fait partie de la réalité au même titre que tout élément naturel. Et il faut attendre la véritable naissance de l'histoire au 5e siècle grec avec Hérodote et Thucydide pour avoir vraiment une distinction entre les éléments qui sont considérés par l'historien comme du mythe et des croyances, y compris les dieux et les éléments qui sont considérés comme vraiment des faits historiques avec une vraie démarche d'enquête.
Hein. Régis ? Alors, il y a peut-être aussi d'autres facteurs. Oui, ça va marcher mieux comme ça. Donc, il y a peut-être aussi d'autres facteurs. Par exemple, peut-être que dans ces sociétés-là, tout n'était pas possible à dire. C'était pas des sociétés qui étaient proprement démocratiques, je suppose, en tout cas pas beaucoup. Et à partir de ce moment-là, peut-être que de recourir donc finalement à des substituts, à des paraboles, à l'imaginaire, peut-être que ça permettait de diffuser un message qui soit moral, qui ne le soit pas, qui n'aurait pas été possible de dire dans ces contextes-là, donc en dehors de ces en dehors finalement de l'imaginaire. Bon, c'est peut-être une possibilité, il y en a aussi une autre, c'est qu'on n'expliquait pas grand-chose à l'époque. Hein, il y a des phénomènes qui apparaissent comme aujourd'hui comme étant scientifiques, naturels et rationnels, qui n'étaient pas du tout, prenons l'exemple de la météo par exemple. Hein. La météo, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on tente de rationaliser. J'imagine qu'il y a quelques siècles, bien que n'étant pas du tout historien, on avait tendance peut-être à donner d'autres interprétations. Il fallait à un moment donné raconter des histoires qui permettent d'expliquer ce qu'on n'expliquait pas rationnellement pour le rendre tout simplement peut-être tolérable. Hein, pour le rendre tolérable, et c'est peut-être une des sources, et peut-être que les régimes autoritaires en sont une autre, avec des doctrines imposées qui obligeaient parfois effectivement à prendre un écart par rapport à la réalité, comme sous la forme de romans à clé, sous la forme... Bon, on sort un peu du domaine, mais voilà.
Je sais pas, ça participe peut-être aussi des archétypes, quoi. C'est un truc qui est plus lisible par tout le monde, y compris les enfants, par exemple. Je pense que quand on leur raconte une histoire en rajoutant un peu de fantastique, ça fonctionne tout de suite mieux, quoi. Et ça doit marcher aussi pour les adultes, j'imagine. Moi, c'est souvent comme ça que j'ai vu. Quand on voit des contes, des légendes, des mythes, c'est plus excitant que la réalité, quoi. Donc, je pense que c'est un truc qui est ancien, mais qui fonctionne encore aujourd'hui. Quand je vois mes gosses devant le Adventure ou des trucs comme ça, ils fantasment comme des malades, quoi. Et quand on leur montre Hercule, maintenant c'est dépassé, quoi. Mais je pense qu'autrefois ça devait fonctionner exactement pareil avec les jeunes et les moins jeunes aussi. Ouais. Voilà, pour pouvoir se projeter dans quelque chose d'extraordinaire, quoi, qui sort de la réalité. On en est toujours là, un petit peu, avec nos romans, nos BD et autres. Hein, voilà, donc, voilà.
Valérie ?
Je crois que peut-être que les peuples ont un peu le syndrome Harry Potter, vous savez, ce petit garçon qui vit sous un escalier, qui a des parents méchants, idiots et profondément stupides. Mais en fait, ce n'est pas ses vrais parents. Ses vrais parents sont des grands sorciers qui ont lutté pour le bien, bon, qui finalement ont été vaincus, mais ce n'est pas grave, il aura sa revanche plus tard. Peut-être que les peuples, c'est ça, en fait. Ils sont pas très contents de leur existence réelle. Et donc, ils s'inventent des parents, des origines et imaginaires beaucoup plus flatteuses, beaucoup largement meilleures que celles qu'ils ont en réalité. Je pense que ça doit correspondre aussi un peu à ça. Puis effectivement, il y a le simple plaisir de se raconter des histoires. Je crois que ça marche pour eux comme ça marche pour nous, finalement. Sans doute, c'est plaisant, c'est amusant. Et pas forcément aller chercher plus loin aussi.
Oui, parce qu'on sait par exemple que, enfin, ce sont des hypothèses hein, qui sont formulées par les paléontologues, mais on sait qu'au temps préhistorique, par exemple, on commence à travailler sur le fait que les hommes préhistoriques aimaient à se raconter des histoires. J'ai vu un documentaire là très récemment sur Arte où on pense que les hommes préhistoriques travaillaient sur les images parce qu'en fait dans les grottes, les peintures rupestres en fait avaient la possibilité peut-être d'être animées. Alors un cinéma très, vous voyez, très très primaire, mais donc ils aimaient se raconter des histoires, ils aimaient se les représenter. Je pense que ça c'est un des ressorts finalement peut-être capital aussi du fait de raconter l'histoire avec un grand H, hein, même depuis des temps évidemment très anciens. Alors moi j'avais envie ensuite, comme autre question, comme autre perspective, c'est peut-être de vous demander quel est votre rapport à l'histoire, à vous, individuellement ou voilà, personnellement. Comment vous voyez l'histoire? Alors vous êtes peut-être, vous avez fait, je veux dire, un parcours d'historien. C'est peut-être parce que l'histoire vous intéresse en partie. Donc, qu'est-ce que ça représente pour vous l'histoire?
Je vais commencer parce que pour moi, qui ne suis pas historien justement, je situe en général l'action de mon livre dans une histoire complètement inventée, réinventée. Pour moi, l'histoire, c'est dans un monde féodal, dans le sens des sept rois, et je l'utilise comme un plateau de jeu, en fait. C'est-à-dire que les personnages sont complètement fictifs, le monde, l'univers dans lequel ils se situent est complètement fictif, complètement imaginaire, mais ça se situe dans un cadre médiéval dans lequel il y a naturellement le tiers-état, un clergé, une noblesse. Pour moi, ce qui est intéressant dans l'histoire, avec un grand H, hein, pas dans l'histoire que j'ai écrite, et que je suis en train d'écrire, c'est que tout simplement ça permet avec le lecteur d'avoir des repères culturels communs. Et comme il y a des repères culturels communs qui vont être finalement le monde finalement de l'Occident chrétien du Moyen-Âge, ça permet de partir sur un consensus dans lequel on n'a pas tout à réinventer. Et là où je trouve que c'est très intéressant, c'est qu'en partant sur quelque chose qu'on croit acquis, parce que c'est acquis justement par l'histoire et donné par l'histoire, on va pouvoir introduire des écarts. C'est-à-dire qu'on croit qu'on a compris, mais c'est pas tout à fait ça. Et ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser l'histoire finalement comme une base, à partir de laquelle je vais introduire des perturbations qui vont finalement donner la qualité à ce monde-là, la qualité à cet univers du champ des sept rois qui permet, mais par contre qui repose de fait complètement sur l'histoire. Hein. Les chevaliers, ils ont des chevaux, ils ont des armures et des armes qu'on aurait pu trouver au XIIe ou XIIIe siècle occidental. Donc c'est pas l'histoire, c'est pas du roman historique, mais pour autant, ce roman n'existerait pas sans le recours de l'histoire et sans l'appui sur l'histoire. Pour les décors, pour la structure sociale et politique de la société dans laquelle se situe l'action, pour finalement pour le matériel qu'ils vont utiliser, les armes, les usages. En revanche, c'est pas un cadre historique réaliste, hein, si compter que le passé soit le réel.
Alors moi, j'ai choisi mes études d'histoire avec la ferme intention de devenir auteur, en fait. Et voilà, je trouvais que les meilleures études que je pouvais faire pour devenir auteur, c'était des études de sciences humaines et des études d'histoire en particulier. Outre que c'est des études où on lit, on écrit, même si c'est pas toujours très littéraire, c'est surtout une bonne façon de connaître l'humanité et qui est quelque part le propos de ce que j'ai envie d'écrire. C'est une source d'inspiration, donc aujourd'hui je continue à lire. Bon, je ne m'appelle plus historien parce que je ne suis plus assez affûté, je ne fais plus de recherche, etc. Je n'ai plus cette démarche d'enquête, mais je continue à beaucoup lire des livres d'histoire pour construire mon propre univers, qui n'est pas une uchronie, qui est un univers qui est complètement inventé, mais ça me permet d'une part de sortir des sentiers battus parce que l'histoire regorge de petites histoires. Bon, on a quitté l'histoire purement événementielle, on a la nouvelle histoire, l'histoire des mentalités, des fouilles dans les archives qui permettent parfois de mettre en lumière des bribes d'histoire humaine qui sont absolument épatantes, qui mériteraient de développer des romans, donc qui sont des bases, des débuts d'idées qui sont intéressants. Donc ça permet de créer quelque chose effectivement qui a une certaine crédibilité. Alors il y a deux façons de faire, hein, ou alors on prend plus ou moins un décalqué d'une période et de l'histoire et d'une région géographique, hein, le Moyen-Âge occidental, dans Gagner la guerre de Jaworski, c'est plutôt une république italienne renaissante, menée d'un petit peu d'Empire romain dans le fonctionnement, ou alors on crée quelque chose de toute pièce, mais alors là on peut aller brasser beaucoup plus large, mais il faut, enfin, en tout cas moi je m'efforce d'avoir une certaine cohérence, d'avoir des mécanismes qui tiennent la route. Puis alors c'est un effort d'imagination. parce que c'est quelque chose qui hérissait les autres historiens quand j'étais aux études. C'est, je disais, l'histoire, c'est un effort d'imagination. Non, jamais, c'est les sources uniquement, tu ne dois rien inventer, tu dois seulement prendre ce que disent les sources. Mais en dehors des sources, il faut reconstituer ne serait-ce que la mentalité de l'auteur, de la source, pour comprendre en quoi il est partiel, par exemple. Ça demande le même travail que le travail de l'écrivain, de se projeter dans un personnage pour essayer de comprendre comment il fonctionne. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la même démarche, je trouve.
Et dans votre dernier roman, Stéphane, alors dans Manège, quel est le rôle de l'histoire ? Est-ce que ça a une importance ou pas ?
Alors, dans Manège, c'est vrai qu'on est plus dans le mythe que dans l'histoire. C'est plutôt dans le tome 2 que je creuse, par exemple, beaucoup tout ce qui a trait aux marginaux des grandes villes au Moyen-Âge. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont intéressantes à mettre. Là, c'est plus le mythe, donc plus le merveilleux que s'inventent les peuples.
Oui, là, je n'ai pas grand-chose à ajouter. C'est vrai que j'ai à peu près le même rapport à l'histoire. J'ai fait aussi beaucoup d'études d'histoire, mais c'est vrai que j'ai jamais été historienne au sens propre du terme. Je n'ai jamais fait de recherche particulière. J'ai toujours été auteur. Après, c'est vrai que l'histoire, c'est un formidable réservoir à histoire, justement. Ça peut à la fois servir de background réaliste et de réservoir à histoire. Après, au-delà, pour nous qui sommes auteurs de bande dessinée, l'histoire, ça peut aussi être une énorme contrainte. C'est vrai que c'est extrêmement difficile de retrouver les mentalités d'une époque, mais visuellement, ça peut être aussi extrêmement difficile d'en retrouver les éléments les plus simples. À quoi ressemblaient les serrures dans l'Antiquité, à quoi ressemblaient les chaussures en Normandie au XIIe siècle après Jésus-Christ. Plus on étudie l'histoire, plus on se rend compte qu'on n'en sait rien, finalement. Donc tout ça, il faut évidemment faire un gros effort d'imagination. Et je crois que c'est là que le merveilleux peut venir en partie à notre aide, justement. Où on peut finalement se couler dans les trous de l'histoire pour ajouter du fantastique et du merveilleux. Et ça peut être un moyen aussi de dire au lecteur, attention, vous voyez, on vous présente une bande dessinée historique, on vous présente une réalité historique, mais ça a été fait par des gens qui ne savent rien, finalement. Faut prendre du recul vis-à-vis de tout ça et pas les prendre au pied de la lettre.
Je trouve que le recours à l'histoire est intéressant parce qu'il rend le monde crédible. Voilà. Il rend le monde crédible, c'est-à-dire qu'on arrive à y croire à un moment donné parce qu'on sait un certain nombre de choses. Et ce que tu dis est intéressant, c'est effectivement la question des accessoires. À partir du moment où on se met dans un cadre donné, c'est peut-être encore plus vrai de votre côté que du côté de la bande dessinée et de l'image. À un moment donné, si jamais on peut faire des erreurs quand on est dans l'histoire, on peut faire des erreurs, alors que dans le monde imaginaire, on ne fait pas d'erreurs, on choisit. Effectivement, les sources documentaires qu'on utilise tous, hein, à un moment donné, on va aller se demander, ben voilà, ils étaient habillés comment à cette époque-là. Et on doit décrire, nous, avec les mots, on doit décrire un vêtement, on doit le dessiner, c'est un peu la même démarche. Je pense qu'effectivement, si on accepte l'histoire comme un carcan, ça peut rapidement devenir un véritable casse-tête, hein, parce qu'il y a un travail de documentation, à mon avis, qui doit être absolument permanent. Voilà.
Moi, j'ai fait qu'une seule BD à peu près historique. C'était un roman noir qui se passait à New York dans les années 30. Et effectivement, bon, New York, il y a beaucoup de choses. Hein. C'est assez facile de trouver avec le cinéma, la photo, tout ça. Il y a un matériau, quoi. Mais c'est quand même. Je l'ai fait qu'une fois, quoi. Ça, je recommencerai pas forcément à travailler sur l'histoire parce que. Tout ce travail de recherche, ça cadre pas trop avec ma recherche picturale, quoi. Hein? Après, l'histoire, ça peut être utile pour pas mal de choses, pour moi, d'un point de vue professionnel. C'est que quand on veut faire passer quelque chose qui est insensé, on peut sortir la carte. C'est historique, c'est vrai, c'est déjà arrivé. Donc, parce qu'il y a vraiment des anecdotes complètement délirantes. Si on ne sait pas que c'est, il faut le mettre quelque part que c'est réel parce que on peut placer comme ça des choses sur Requiem quand on travaillait sur pas mal de personnages historiques mais vraiment largement interprétés à notre sauce quoi. C'était intéressant justement parce que on retrouvait l'originalité par le biais de l'histoire. Si on travaille sur Dracula par exemple. Ben, plutôt que de regarder tous les films de Dracula, il vaut mieux lire sa bio, quoi, parce que il a fait des choses extraordinaires. Il y a une foule d'histoires, même il faut faire le tri, quoi. Alors après, c'est ce qu'il y a de marrant, quoi, quand on construit comme ça notre intrigue, c'est que il y a ces éléments qu'il va falloir tordre pour les faire rentrer dans notre univers, quoi. Et en général, quand on, il y a des choses qui vont tout de suite nous parler, et qui vont être assez aisées, quoi. Puis le reste, je le laisse de côté. C'est pour ça que moi, je fais pas de vrais romans historiques, quoi. Ou alors assez minimaliste. Il y a des, et puis après, il y a des périodes sur lesquelles on va plus facilement fantasmer aussi, quoi. Par exemple, je me vois mal en train de faire tout ce qui est antique. Antique, j'y arrive pas, quoi. C'est ridicule, mais les sandales, les choses comme ça, moi, je ça passe pas, quoi. Par exemple, ouais. Donc, ouais, bon, pour le jeu vidéo aussi, l'histoire, ça m'avait beaucoup servi pour faire des choses originales. À une époque, j'ai été directeur artistique pour des jeux vidéo, quoi. Et moi, mon boulot, j'étais payé pour que les graphistes sortent du Seigneur des Anneaux et de Warhammer, quoi. Parce qu'ils ne voyaient rien d'autre. Alors je leur faisais des photocopies d'armure, de machin comme ça. Alors, mais il y a une base de matériaux démentielle, quoi. Les types tournaient toujours en rond sur les mêmes armures. Je leur montrais des trucs, les armures maximiliennes, vraiment gothiques, superbes. Il y a une réserve d'idées, d'images qui est extraordinaire, quoi, qui est pas toujours. On utilise toujours. Moi, je veux toujours les mêmes choses un peu utilisées, quoi. Quand on vient vraiment aux sources, en général, c'est gagnant, quoi. Donc, quand je m'intéresse à l'histoire, c'est un peu dans cet objectif-là. Voilà.
Alors, là, je voudrais qu'on revienne, parce qu'on a bien compris, évidemment, quelle était la part de l'histoire dans votre travail. Mais je crois que je voudrais revenir au merveilleux, puisque, bien sûr, c'est le sujet de cette... Enfin, une partie du sujet de cette table ronde. Donc, aujourd'hui, on assiste à l'émergence depuis quand même presque 2 siècles maintenant, à une histoire, vraiment, une histoire scientifique, prouvée par des faits, prouvée par les sources, hein, vous l'avez dit. Et à côté de ça, alors les gens s'intéressent, hein, bien sûr, à cette histoire-là, qui aujourd'hui on imagine évidemment pas du tout avoir raconté une histoire sans qu'elle soit prouvée, bien sûr. Mais à côté de ça et parallèlement, eh bien, le merveilleux, justement, à la fin du XXe siècle, et même depuis les années, je dirais, fin des années 40 et début 50, avec Tolkien, bien sûr, le merveilleux est quand même toujours là. Et il va évidemment ressortir sous des formes différentes, sous la forme de la fantasy, qui a quand même littéralement explosé à la fin en termes évidemment littéraires et puis cinématographiques, à la fin justement du XXe siècle et puis encore maintenant aujourd'hui. Alors moi, la question que je voudrais vous poser, c'est finalement le merveilleux, est-ce que ça enchante la réalité? Pourquoi est-ce que nous aimons en tant que public, lecteur, spectateur, le merveilleux? Et finalement, le merveilleux nous raconte une histoire épique, une histoire enchantée. Alors, pourquoi, à votre avis, est-ce que c'est justement le merveilleux et a autant d'importance encore aujourd'hui via la fantaisie, par exemple?
On vit peut-être un monde, enfin une vie qui est pas toujours facile. Je sais pas, le métro, voilà, le travail, les maladies, voilà, il y a un tas de choses comme ça. La météo aussi. Moi, je suis picard, vous savez, donc météo, c'est un sujet sensible. Et donc, effectivement, je pense qu'on a des vies qui sont parfois un petit peu lourdes, hein, et parfois on a besoin de se faire du bien, peut-être. Voilà, c'est un pansement sur nos plaies un petit peu. Bon, naturellement, alors parfois on va trouver du merveilleux. Soit c'est l'objet donc du livre, l'objet donc du film. Mais parfois ça peut devenir un petit peu niais aussi, peut-être. Parfois ça fait du bien dans des univers qui sont sombres. C'est un petit peu peut-être chez Tolkien l'intérêt du merveilleux, c'est qu'on est dans un monde qui va être extrêmement sombre, extrêmement négatif, hostile. Et tout d'un coup on arrive chez les elfes et là forcément voilà, ça brille un peu plus et ça nous fait du bien. Ça fait une pause émotionnelle sans laquelle on aurait parfois envie de refermer le livre parce que c'est quand même très glauque. Est-ce que finalement le merveilleux et la fantaisie plus sombre, est-ce que ce sont finalement les deux manières d'équilibrer un petit peu la relation à l'imaginaire dans ces univers-là? C'est possible. Mais c'est aussi un genre en soi, un genre lui-même. Et comme moi, j'ai plus de viols de masse et de têtes qui tombent que de fées, je préfère laisser le message, le micro à d'autres.
Moi, je crois qu'il y a encore quelque chose de plus que simplement l'envie de s'évader dans autre chose. Je pourrais pas le définir, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment inhérent à la nature humaine. Parce que d'abord, le merveilleux, c'est pas seulement quelque chose d'enchanteur et des beaux elfes, etc. Ça peut être aussi très très effrayant. Ça peut être un ogre, ça peut être quelque chose d'effrayant, de fantastique, mais qui va provoquer la même fascination pour cette espèce de fascination pour l'au-delà qui semble être vraiment inscrite en nous, tout comme cette tendance à croire dans des dieux ou à un dieu est profondément inscrite dans la nature humaine et qu'on la retrouve dans toutes les civilisations et que même dans notre civilisation rationnelle, on arrive encore à éprouver chez pas mal de personnes ce besoin de croire en quelque chose de surnaturel ou à défaut, à la limite, en un complot ou toujours croire à quelque chose d'autre. On dirait que notre cerveau a besoin de s'inventer de nouveaux espaces, tout simplement. Des espaces où il peut respirer, où il peut être en roue libre parce qu'il n'est pas forcément en contact avec la réalité. Qu'il y a une sorte de plaisir à ça. Il y a un plaisir à appréhender des réalités qui n'existent a priori que par l'esprit.
Oui. Oui, effectivement, je crois que l'épique peut répondre aux mêmes besoins pour nous que pour les hommes de l'Antiquité. Finalement, nous aussi, on a besoin effectivement de croire, de se raconter des histoires, d'imaginer que notre vie peut être plus merveilleuse ou plus terrible qu'elle n'est. Je crois que tout ça nous sert un peu de catharsis par rapport à notre vie quotidienne, parfois pas très rose. Parfois, on a envie de se venger de son patron et finalement, voir un hobbit décapiter un ogre, ça peut être satisfaisant. Ou le contraire, oui. Je crois que ça répond à ces besoins-là, chez nous aussi. Le fantastique ou la fantaisie sert un peu à nous révéler à nous-mêmes, en fait. Aussi à révéler notre inconscient, à faire des choses qu'on ne pourrait pas ou qu'on ne voudrait pas faire dans la réalité. C'est un peu, oui, la soupape de sécurité à notre quotidien, oui.
Ouais, ce qu'on peut dire aussi, c'est que le merveilleux, ça a la peau dure, quoi. C'est-à-dire que il y a un type qui a fait un bouquin, qui en a fait même plusieurs, le coûteux, sur les elfes, les nains, etc., en partant de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et on voit qu'il y a eu une espèce de cycle, c'est pas vraiment rythmé, quoi, mais ils sont sur le point de disparaître et paf, ils reviennent. Il y a la chanson de geste qui les remet à la mode. Et on entend à nouveau parler des nains, des fées, des elfes pendant quelques siècles. Et puis ça retombe, et puis ça revient avec le 19e, ça retombe, ça revient avec le 20e. Et quoi qu'il arrive dans la vie réelle, quoi, ces choses-là survivent, quoi. On ne sait pas comment, parce que les nains de jardin, par exemple, c'est un truc qui date mais vraiment de l'Antiquité. Les Romains avaient des nains comme ça dans leur jardin qui faisaient des offrandes.
Peut-être pas des nains façon Blanche-Neige, mais
ils avaient c'était des petits hommes. Voilà. Voilà. Ils n'avaient pas les chapeaux rouges.
Puis il y avait, chez les Romains, c'est vrai, il y avait c'est un petit peu différent, mais il y avait la représentation des dieux lares qui étaient des petites statues votives qu'on avait à l'intérieur du foyer. Donc je pense qu'il devait avoir aussi des représentations pour mettre dans les jardins, absolument.
Oui. Et on les retrouve ces nains vraiment partout, quoi. Et aujourd'hui, ça. Moi, ça m'est pas toujours ça de voir ça. Ouais.
Quelque chose de tout simple pour essayer de définir ce besoin indéfinissable dont je parlais tout à l'heure. Cet été, on est allé en Indonésie, plus précisément à Bali. Et ça peut paraître destination touristique, mais ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est que tous les matins, ils font des offrandes aux dieux. En mettant devant leur maison un bâtonnet d'encens, des fleurs qui tressent, etc. Et j'avais presque envie de faire comme eux, en fait. J'avais presque envie de faire tous les matins cette transaction, cette offrande, un espèce d'acte généreux qui est un lien avec le monde de l'invisible, qui est un lien avec quelque chose d'autre et qui, quelque part, nous rend meilleurs. Et c'est ce que eux disent, ça nous rend meilleurs. Notre vie est meilleure quand on fait ça, elle est plus gaie, elle a quelque chose de plus enchanté. On se sent meilleur humain quand on le fait. Parce qu'on commence la journée par un don, par une forme de communication, par la création de quelque chose de joli. Et c'est en interaction avec le monde du merveilleux.
D'accord. Oui, ça c'est. Je pense que c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que on dit souvent pourquoi croire aux fées, mais parce que les fées c'est avant tout des êtres esthétiquement beaux. Bon, peut-être pas dans tous les récits, hein, parce qu'il y a aussi, comme vous l'avez dit, des personnages assez effrayants. Il n'y a pas que des fées qui sont de gentilles fées. Il y a des maléfiques aussi, évidemment. Mais je crois que c'est vrai que c'est aussi un lien avec la beauté. Et pour faire le rapport quand même avec la science-fiction, parce qu'on est quand même aux utopiales, je crois que même dans les représentations de robots, de cyborgs, etc., dans l'avenir, ce qui va peut-être remplacer, ou dans les films, par exemple, aujourd'hui, la maladie est remplacée par une technologie qui est quasiment magique. Moi, ça m'a toujours frappé, par exemple, dans Star Wars. On n'a pas du tout, finalement, une réflexion sur la construction de la technologie, les difficultés de la technologie. La technologie est là, comme pratiquement un fait magique, et donc on s'en sert comme d'une magie. Bon, ça va nous renvoyer, évidemment, peut-être à une autre dimension de Star Wars, mais voilà, je crois que c'est vrai que ça correspond à un besoin, même dans l'ASF, qui parfois peut être très, très dur hein, et très noir, mais ça correspond également à un besoin très, très puissant, comme vous l'avez dit, très humain, de réenchanter le monde. Alors justement, moi j'ai envie de vous poser la question, finalement, est-ce que vous avez des œuvres ou des auteurs, peut-être qui ont mêlé histoire et merveilleux, qui ont pu vous influencer en tant que créateur, et puis comment vous créez finalement ce merveilleux ?
Moi, je suis trop rationnel pour créer beaucoup de merveilleux. J'ai pas ce recours-là dans le sens de ces trois. J'ai pas tellement ça. Il y a naturellement des merveilleux sociaux. Hein. On parlait du rapport à la religion. Il y a effectivement, ils ont eux aussi dans cet univers-là des amis imaginaires. Hein, voilà. Donc sous la forme d'une théocratie. Mais effectivement, je suis pas le mieux placé pour en parler. En revanche, sur la science-fiction, le rapport à la science-fiction est intéressant parce que la science-fiction, c'est une fantaisie qui s'explique en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on va trouver une rationalité. Même si on va inventer des arguments, on va inventer des arguments pour expliquer que finalement, nous ne savons pas encore faire ça. Techniquement, on ne sait pas le faire, mais on va essayer de trouver un moyen pour nous expliquer comment on pourrait faire si on était plus tard. C'est-à-dire qu'il y a toujours une relation dans la science-fiction, une relation finalement à la réalité, qui est donc une rationalité, une explication rationnelle. Tandis que quand on est dans la fantasy, et encore plus, je suppose, dans le merveilleux, hein, bien que je ne sois pas un expert, on va rompre le rapport entre finalement les phénomènes qu'on va mettre en jeu, et puis finalement une explication rationnelle. Elle n'existe pas, et si finalement on explique pourquoi, par exemple, dans Star Wars, hein, la force, c'est la force, si on l'explique, il n'y a plus la magie justement de ce film-là qui repose là-dessus. C'est pour ça qu'on la classe plutôt dans la fantasy que dans l'ASF. C'est qu'il va y avoir donc une relation qui va être magique. Donc si c'est magique, on ne l'explique pas. Si on l'explique, on sort finalement de cette relation finalement dialectique entre finalement la raison et la connaissance en quelque sorte d'un certain nombre de phénomènes. Et donc je crois que c'est vraiment ce qui les qualifie un peu. Si on explique, on est vraiment plus dans la science-fiction et on rentre dans un discours rationnel, construit, auquel on va adhérer ou pas, hein, sur lequel il va y avoir, en tout cas on pourra réinterroger on va pouvoir réinterroger en quelque sorte l'histoire par rapport donc aux connaissances actuelles de la science et des hypothèses qu'on pourra faire pour plus tard. Voilà. Est-ce que ce serait possible? Est-ce que c'est plausible? Est-ce que ça correspond aux modèles techniques et physiques qui sont les nôtres actuellement? Voilà. Et pour le merveilleux, naturellement, aucun lien. Hein. Si on met un lien, on brise le charme. Hein. Et on n'est plus dans le fait d'admettre les choses comme dans la religion. Hein. Quand on parle de croyance, c'est simplement parce que les gens croient ou ne croient pas, mais personne ne sait. Hein. Donc dans le merveilleux, dans la fantaisie, on va croire, on va rentrer dans un univers parce qu'on va croire et on sait qu'il n'y a rien à comprendre. On ne peut pas avoir de preuves, finalement, de ce que l'auteur va avancer ou de ce que, finalement, la Bible ou n'importe quel autre livre sacré va avancer. Voilà.
Oui, par rapport au... Oui, tout à fait. Mais moi, je veux dire, les textes qui m'influencent par rapport au merveilleux, c'est justement, tout simplement, d'en revenir au mythe issu de la tradition orale, mis par écrit, forcément, et c'est vraiment essentiellement là-dedans que je retourne puiser. Je veux dire, c'est ce qu'a fait Tolkien en son temps. Ça m'intéresse pas d'aller repuiser dans la lecture que Tolkien a fait des mythes. J'ai envie de retourner directement dans les mythes eux-mêmes. Et donc, ce sont essentiellement les mythes indiens, les mythes germaniques, les mythes celtiques et les mythes notamment finnois. Moi, j'aime beaucoup le Kalevala, par exemple. Comme j'avais un barde à mettre en scène, j'ai voulu retrouver vraiment cette pensée mythique ce merveilleux primordial. À l'époque, faut bien s'imaginer que en Finlande, l'hiver, on n'a pas grand-chose d'autre à faire que de raconter des histoires. Mais c'est pareil, même en Inde et dans toutes les civilisations, on pouvait, même enfant vivant en Inde, j'assistais à des spectacles de danse mythologique qui duraient 5 heures. On pouvait consacrer beaucoup plus de temps à ça. Et donc, je me suis dit, on va lire. Kalevala, c'est encore en vers. Ça a été traduit par un traducteur qui est vraiment fortiche parce que la langue finnoise est extrêmement riche. Il a recherché des mots d'ancien français pour le faire. Et donc, ce texte est disponible en vers. Et donc, on a fait venir un ami harpiste, un autre ami qui maîtrisait un psaltérion, enfin des instruments à consonance médiévale. Pas de guitariste, ils allaient tout foutre en l'air par manque de sobriété. Et on s'est dit, on va lire, on va retrouver l'esprit des bardes, on va lire le Kalevala à la façon des bardes pour voir si ça marche, en vers. Et on s'est dit, on va lire une heure, ça sera le coup de la soirée. Il y avait une amie conteuse aussi. On va lire une heure, ça sera le coup de la soirée, et puis on fera autre chose. On a accueilli les gens avec du Sibelius, compositeur finlandais qui a beaucoup travaillé sur le Kalevala. Et on s'est mis à lire. Et quand on a terminé de lire, 3h30 avait passé, on avait lu 120 pages de vers, on n'avait rien vu venir. Et l'enchantement venait à la fois de la métrique, du rythme qui s'installait, qui provoque une sorte de transe, du contenu, bien sûr, des éléments merveilleux qui sont vraiment évoqués, et des sonorités pures, vraiment de la richesse du langage. Et on s'est rendu compte que ça marche vraiment, et qu'encore aujourd'hui, où on est habitué à ce que l'action doive aller de plus en plus vite et que les films et les œuvres soient de plus en plus denses, il y avait moyen de rentrer en transe dans cette tradition orale primordiale avec les vers qui non seulement servent à fixer dans la mémoire du conteur, mais servent aussi à vraiment provoquer cette espèce de transe. Quoi. Donc voilà, c'est un peu là-dedans que je puise. Voilà.
Oui, moi je suis beaucoup plus inspirée par les mythes gréco-romains, on va dire, hein, en général, et Homère en particulier. J'ai fait une adaptation, par exemple, dans un univers spatial de l'Odyssée et de l'Énéide. Et c'est vrai que pour moi, déjà, c'est des mythes qui sont au fondement de notre civilisation, donc qui nous parlent encore aujourd'hui, je pense. Et au travers de cette adaptation, j'ai essayé, enfin, qui s'appelait Le Dernier Troyen, en l'occurrence, qui racontait donc la fuite d'Énée après la chute de Troie jusqu'à la fondation, jusqu'en Italie où il arrive, puis où ses descendants fondent Rome. Par là, j'ai voulu traiter des problèmes contemporains, en fait, essayer de voir le rapport entre ces vieux mythes et est-ce que nous sommes aujourd'hui. Par exemple, tout bêtement, j'ai voulu parler des lotophages, par exemple. Les lotophages dans l'Odyssée, c'est Ulysse qui débarque dans un pays imaginaire que certains historiens situent aujourd'hui en Tunisie, où il découvre une plante merveilleuse qui apporte le bonheur, mais qui en même temps a servi ceux qui respirent, ceux qui la mangent. Donc évidemment, c'est une image de la drogue et de ses effets. Et c'est vrai que retraiter à nouveau cette thématique-là, ça m'intéressait beaucoup, par exemple. Donc je pense que c'est ça qui fait aussi que les mythes sont toujours vivants à notre époque, c'est qu'on peut, les interpréter d'une manière qui nous intéresse encore aujourd'hui. La drogue, c'est un problème éternel. Je vous parlerai pas du mythe d'Oedipe, évidemment, qui fait toujours les beaux jours de la psychanalyse. Mais c'est vrai que c'est ça qui m'intéresse particulièrement, en fait. C'est vraiment les rapports entre ces histoires qui ont plusieurs milliers d'années et nous, finalement.
Bah moi, pour mon dernier bouquin, avec mon scénariste, on s'est pas mal inspiré des contes de fées de Grimm. Et c'est des histoires qui s'adressent quand même plutôt aux enfants, qui leur permettent d'évoluer, de faire face à un grand frère un peu pesant, des choses comme ça, qui donnent des solutions. Donc c'est assez éternel, quoi. On retombe toujours sur un peu les mêmes archétypes, les choses qui vont parler un petit peu à tout le monde. Donc moi, ma source d'inspiration actuellement, elle se situe plutôt à ce niveau-là. Quoi. Je m'intéresse pas plus que ça à l'histoire en général. Donc, c'est pas vraiment une source d'inspiration pour moi.
Voilà. Alors pour terminer, puisque je vois que le temps avance. J'avais une question à poser à nos invités. La science-fiction, finalement, est-elle, d'après eux, ils vont nous répondre bien sûr, une histoire merveilleuse du futur ? Parce que moi, je me suis toujours posé le rapport, évidemment, le rapport étroit qui peut exister entre la science-fiction et les mythes. Et pour moi, la science-fiction, c'est ce que je pourrais appeler une sorte de mythologisation de l'avenir. C'est-à-dire qu'en fait, la science-fiction nous parle peut-être des mythes du futur. Est-ce que le robot, par exemple, le robot existe depuis l'Antiquité, puisque il y avait des créatures, hein, donc en or, qui avaient été créées justement par Héphaïstos. Bon, ça, qu'on pouvait considérer, vous voyez, comme des automates, mais qu'on peut voir comme les ancêtres des robots. Et là, je me dis que avec la science-fiction, avec finalement, on a une sorte de double mouvement entre l'histoire, les créations technologiques qui sont en train de s'inventer, et puis notre rapport humain à ces inventions. Parce que finalement, quel va être notre rapport aux robots ? On ne sait pas du tout. Or, on sait très bien que d'ici une cinquantaine d'années, bon, des robots, vous en avez ici, qui sont bien présents, qui sont évidemment des machines. Hein, je ne parle pas du tout d'intelligence artificielle. Mais je me dis, finalement, la science-fiction, elle va peut-être nous aider dans ce rapport, à inventer un rapport, par exemple, avec les robots, avec la future robotique. Quel va être notre rapport avec la création génétique ? Quel va être notre rapport, par exemple, avec ce qu'on appelle la cyborgisation, c'est-à-dire le fait que de plus en plus, notre corps va être réparé par des éléments mécaniques, par des nanomachines. Voilà, et donc la science-fiction nous raconte ça. Alors, c'est pour ça que je reviens à ma question initiale. Donc, la science-fiction, d'après vous, est-elle vraiment cette histoire merveilleuse du futur ou pas ?
Mais moi, c'est pas comme ça que je l'envisage, hein, du tout. Moi, j'envisage les sociétés du futur comme étant finalement des groupes humains qui vont avoir des problèmes qui seront approximativement les mêmes que les nôtres aujourd'hui, mais qui auront des outils différents. Et c'est plutôt quand j'écris aussi donc au niveau de la SF, hein, je me dis plutôt finalement dans quoi vivent-ils, quel est le climat, quel est le niveau de développement technologique, hein, de quoi ils ont besoin, comment ils ont pu orienter la recherche et comment ils ont pu orienter l'ingénierie pour répondre aux difficultés qui sont les leurs. Et je pense que les sociétés, bien sûr, s'ancrent dans la mythologie, dans le passé, mais aussi ils fabriquent leur propre mythologie en fonction donc de contextes qui sont extrêmement pragmatiques. Il fait trop chaud, il fait trop froid, on peut respirer ou pas à l'extérieur, on vit sur le sol ou on vit pas sur le sol, et à partir de ce moment-là, ce qui va créer finalement, et ce qui m'intéresse moi dans la science-fiction en tant qu'auteur de SF, c'est plus de se demander comment nous finalement projeter dans une vie qui n'est pas du tout la même, hein, parce que les conditions de vie sont pas du tout identiques, comment on s'en sort, hein, comment on imagine des solutions, et moi ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus la question du génie humain, qui va s'adapter plus ou moins bien d'ailleurs, à des situations qu'elle a soit générées, soit qu'elle va subir. Et j'ai plus une logique d'outils. Voilà. Une société comme la nôtre, ni plus ni moins, placée dans un cadre qui n'est pas le même, avec finalement des outils naturellement sur lesquels on va anticiper, parce que depuis une soixantaine d'années, hein, on voit une accélération donc des processus techniques et de leur développement qui est absolument fulgurante. Je ne sais pas si on mesure encore aujourd'hui qu'il y a 60 ans, dans les campagnes, il n'y avait ni l'électricité, ni eau courante, et que les gens, il y avait le train, bien sûr, mais bon, il était à vapeur. Bon, ou à peu de choses près, 10 ans près, je ne sais pas. Mais c'est un peu l'idée. Hein. Moi, ce qui m'intéresse plus quand j'imagine le futur, déjà, je l'imagine parce que je ne le vivrai pas. Et c'est naturellement une frustration et j'ai envie d'imaginer ce que ça pourrait être. Mais surtout, plus que de se référer au mythe fondateur, ce qui m'intéresse, c'est plutôt quels choix ils vont faire. Quel choix ils vont faire et comment d'ici là ils vont s'adapter à l'évolution finalement du monde qui va être le leur. Et de ce côté-là, je suis beaucoup plus attentif finalement à l'évolution des techniques actuellement et de la science. Il se passe actuellement dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit des choses absolument stupéfiantes. Enfin, il n'y a pas une semaine sans qu'on n'ait pas des pans entiers de la connaissance qui se dévoilent à nos yeux profanes, bien sûr. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse le plus et qui moi peut-être constitue finalement le merveilleux. Le merveilleux pour moi, c'est le dévoilement rationnel de choses qu'on ne comprenait pas par le passé et qui ouvrirait pour les sociétés du futur des voies. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup plus. Quel outil, quel problème, qu'est-ce qu'on fait avec ?
Oui, on voit qu'on a à peu près les mêmes problématiques en science-fiction et en histoire finalement. On se penche sur des époques qu'on n'a pas vécues et qu'on ne vivra pas et on essaie de savoir ce qu'était l'homme à ce moment-là ou ce qu'il sera dans le futur. Et finalement, on n'en sait rien et on doit se projeter soi-même pour faire un effort d'imagination pour essayer de le découvrir. En sachant qu'on ne le trouvera jamais, mais bon, ça n'empêche pas de chercher, au contraire.
Oui, moi j'ai la même approche. Enfin, je pense que dire que la SF est une histoire merveilleuse du futur, je pense qu'en tout cas il y a certains grands mythes de l'humanité qui vont trouver une prolongation dans la science-fiction ou une forme de réalisation. Le robot, ben oui, on a le mythe du golem, puis qu'on retrouve au 19e siècle avec Frankenstein, et puis qu'on peut retrouver dans le robot, c'est l'homme qui devient démiurge, qui devient capable de créer une autre forme de vie autonome. On peut y arriver. Et puis il y a des choses qui ont déjà été réalisées, des mythes qui ont déjà été réalisés, comme le mythe de voler, d'avoir le pouvoir fabuleux d'un animal. Au départ, c'est un rêve, le mythe d'Icare, etc. Et puis bon, on l'a réalisé celui-là, donc on continuera à réaliser des choses qui étaient de l'ordre du mythe avant. Et puis bien sûr, là où la fantasy, puisque on est dans le style qui touche le plus au merveilleux actuellement, et la science-fiction et l'histoire ont quelque chose en commun, c'est effectivement dans cet effort d'imagination qui consiste à se représenter comment les hommes s'organisent par rapport à un contexte différent, une sorte de déclinaison de l'histoire où on change des éléments, où on change des règles physiques, hein, où on permet des choses qui ne sont pas possibles, où on rajoute des éléments, des créatures par exemple qui n'existent pas normalement. Comment ça peut influencer si les mages existent, si les dragons existent, en quoi ça va façonner une société différemment et en quoi la mentalité des personnes dans ce monde va évoluer. Et c'est vrai que tant pour le roman historique que pour la science-fiction que pour la fantasy, quand elle essaie vraiment de créer un monde et des personnages tangibles, le gros défi, me semble-t-il, outre les aspects matériels comme les sandales, les chaussures, etc., ou l'armement qui sont déjà un sacré défi, c'est de rentrer dans la mentalité d'un autre monde, de voir qu'est-ce qui reste commun à l'humanité, qu'est-ce qui est vraiment intrinsèque à l'humanité et qu'est-ce qui va changer. Parce qu'il y a aussi des choses qui, dans un autre monde, font réagir les humains très très différemment. Il y a des visions du monde qui sont parfois vraiment radicalement différentes et qui peuvent vraiment influencer les choses. Le simple fait dans une société traditionnelle d'avoir eu 7 ou 8 petits frères ou petites sœurs dont la moitié sont morts en bas âge et d'avoir commencé à avoir la considération de son père à l'âge de 5 ans quand on s'est dit ok c'est bon celui-là il va survivre, ça change la façon dont on pense, dont on se positionne. Donc éviter le côté hollywoodien, la coiffure actuelle projetée dans le monde, dans un autre monde.
Actuellement, ils peuvent pas faire un film en ayant la mentalité de l'Antiquité, quoi. Ils se projettent toujours dedans. Il y a toujours une histoire de péché, par exemple, qui n'existait pas. On retrouve souvent des choses comme ça.
Très difficile de se décontaminer.
Ah oui, c'est voire impossible, même. C'est difficile.
C'est vrai que le péplum, par exemple, nous apprend autant de choses sur l'époque dans laquelle il a été réalisé que sur l'Antiquité, finalement. Quand on regarde Ben-Hur, Gladiator ou l'aigle de la 9e Légion, bon, ça n'a rien à voir. Pourtant, c'est censé parler à peu près de la même chose, quoi. Et pour la science-fiction, c'est pareil. Ça nous parle autant de nous, ici et maintenant, que des mondes futurs qu'on imagine, c'est clair.
Voilà, donc il nous reste à peu près une dizaine de minutes. Donc si vous souhaitez sur ce sujet poser donc des questions à nos invités, on va passer donc avec un micro. Est-ce que voilà, on a une question là déjà.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va, c'est bon, vous m'entendez. Voilà. Vous avez énormément parlé de l'inspiration que pouvaient avoir les auteurs dans l'histoire pour créer des histoires et de la littérature. Mais en fait, le problème se pose énormément dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que la création d'histoires, de mythes ou de littérature crée des objets historiques. Il suffit de savoir, on peut prendre différents exemples. Pour les mythes, par exemple, les sagas qu'on va trouver pour les pays scandinaves sont les seules traces d'une histoire qui a été transmise et transformée sous la forme de conte. Et le travail des historiens, c'est justement d'essayer de déblayer le mythe et la littérature autour pour retrouver l'histoire. Et on a également beaucoup cela aussi au XIXe siècle, puisque la littérature du XIXe siècle a créé beaucoup d'objets historiques. Un exemple, enfin, allez, deux grands exemples, les pirates, et deuxièmement, les mousquetaires de Dumas. Si on y réfléchit bien, c'est juste un corps de l'armée française, les mousquetaires. Si Dumas n'avait pas écrit un roman dessus, enfin trois romans, et qui eut le succès mondial qu'on connaît, personne aujourd'hui actuellement n'aurait entendu parler des mousquetaires et saurait de quoi il s'agit. Et de la même façon, il y a eu beaucoup d'historiens qui, surtout parce que l'histoire scientifique est née aussi au XIXe siècle, qui se sont au départ basés sur des sources qui en fait étaient littéraires, mais qui ont été considérées comme des sources historiques et qui nous ont transmis certes des objets historiques, mais ont été considérablement transformés par la les différentes sociétés qu'ils ont traversées.
Oui, c'est une très bonne remarque. Bon, c'est pas vraiment une question, hein, mais vous avez choisi. C'est vrai que la civilisation scandinave des Vikings, ça c'est vraiment une réalité. C'est-à-dire que finalement, on a plus en tête, je dirais, des textes écrits, inventés sur eux qu'une. On a quelques bases quand même historiques, mais c'est vrai que là, du coup, on refait complètement cette histoire-là. C'est tout à fait juste.
Oui, moi j'entends deux choses dans ce que vous dites. La première, c'est qu'il y a des civilisations pour lesquelles les seules sources écrites qu'on a, ou presque, ce sont des mythes, et qu'il faut arriver, en tant qu'historien ou préhistorien, à aller rechercher derrière le mythe des réalités, malgré tout, ne serait-ce qu'une structure sociale, que des institutions. C'est le cas pour le monde scandinave, c'est le cas certainement pour le monde celtique, où on se sert aussi des mythes irlandais pour, malgré tout, aller rechercher. Et là, ça se prolonge tout à fait dans le travail de Jaworski, par exemple, sur la saga des rois du monde. Alors, à côté de ça, il y a une mythification de l'histoire qui est instrumentalisée, où on crée de toutes pièces des mythes, en général, à des fins politiques, à des fins d'union nationale, à des fins de propagande. En Belgique, par exemple, il y a une historienne qui écrit un livre sur les grands mythes de l'histoire de Belgique, en mettant en épingle une série d'événements historiques qui vous parleront peut-être pas en France, mais qui sont considérés comme fondateurs de, par exemple, la bataille des éperons d'or, où les Flamands voient ça comme une grande victoire contre le roi de France et donc contre les Wallons, quelque part, comme un symbole de leur identité nationale, mais qui est en fait une bataille qui était gagnée grâce à l'appui de la chevalerie namuroise, c'est-à-dire wallonne, puisque le comte de Flandre était comte de... Petite anecdote juste pour dire qu'effectivement, les sociétés ont tendance effectivement à truquer l'histoire pour en faire des mythes.
Oui, d'autres questions ?
Oui, une dichotomie que je vois entre histoire et merveilleux, c'est aussi que, par exemple, au final, les histoires qui parlent de grands récits, qui parlent de l'humain, de la médiocrité ou de la grandeur de l'être humain, elles existent dans le merveilleux ou dans le récit historique, mais une des grosses différences d'un point de vue émotionnel, c'est, bon, par exemple... On va prendre un classique. Dans Le Seigneur des Anneaux, la faiblesse de Boromir ou de Denethor et la grandeur de Aragorn, c'est quelque chose qui parle, mais au final, c'est quelque chose qui provient... Enfin, c'est comme M. Godin, il me semble, disait, c'est quelque chose qui provient de la tête de Tolkien et qui provient d'un imaginaire que Tolkien a planifié. Il n'a pas dû chercher une réalité. Et ça, en tant que lecteur, on peut jamais l'oublier. Quand on lit un récit historique, par contre, qui parle de la médiocrité ou de la grandeur de l'être humain, quand on regarde des récits, par exemple, de la Première Guerre mondiale, de Remarque ou de Ernst Jünger, par exemple, le spectre de la grandeur et de la médiocrité n'est pas moins grand, mais le raisonnement, lui, est à mon sens plus perçant, parce que la faiblesse qui est décrite dans les livres de Jünger ou de Remarque, c'est la nôtre. La faiblesse que décrit Tolkien avec Boromir ou Denethor, c'est une faiblesse qui est au final très, comment dire, bon, c'est très diabliste comme pensée, mais qui provient de la tête de quelqu'un, qui est très qu'on peut reléguer. Et à mon sens, on retrouve ce truc du merveilleux qui parle exactement des mêmes thèmes que l'histoire, mais qui est une manière de reléguer cela dans un espèce de récit qui permet justement de sauvegarder ce calme d'esprit, en fait, de se dire « Ah, ça nous parle, mais c'est loin. » Ce n'est pas quelque chose qui nous touche dans notre propre chair et dans notre sang. Au final, la médiocrité de la Première Guerre mondiale, c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui. La médiocrité de Boromir et de Denethor, qui provient des mêmes expériences, c'est pas la nôtre. Et c'est ça qui, à mon sens, est rassurant. C'est pour ça qu'il est plus facile de lire Le Seigneur des Anneaux que Al Westerien Nouveau, par exemple.
Oui, une sorte de distanciation, finalement, par rapport à l'imaginaire. Enfin, grâce à l'imaginaire, voilà. Et non pas grâce à la temporalité historique. Hein, c'est ça votre, voilà, c'est ça votre idée.
Oui, moi je vois des choses. De toute façon, il faut bien comprendre que tous les personnages d'un récit viennent effectivement, comme vous le disiez fort bien, de la tête de son auteur. Donc on a tous de la grandeur, on a tous aussi nos petites lâchetés, et finalement on n'a pas à aller chercher très très loin pour avoir toutes les palettes finalement des émotions et des actions humaines possibles. Voilà, moi je pense aussi que quand on va chez Tolkien, c'est une question de focale, c'est-à-dire qu'on est sur un plan moyen pratiquement tout le temps, c'est-à-dire qu'on va voir les gens en action, mais avec quand même une visée sur leur psychologie, qu'est-ce qu'ils pensent et pourquoi ils font ça. Dans la guerre 14-18, ma foi, on est là sur un plan d'ensemble, et tellement d'ensemble, on a tellement reculé en termes de distance, de proximité, qu'on voit pratiquement une ligne de front qui fait plus de 1000 km, quoi, ou je ne sais pas combien, vous me corrigerez, dans lesquelles l'individu, finalement, va être complètement annihilé, en quelque sorte, au sens propre, hein, mais aussi sur le plan de sa de personnalité. C'est-à-dire qu'on redécouvre maintenant, un siècle plus tard, effectivement, il y a plus longtemps que ça, en réalité, hein, donc les correspondances de guerre, des choses dans on va rentrer dans la psychologie et dans la vie finalement de ces personnages en tant qu'individus. Mais quand on imagine la guerre 14-18, ce sont des cohortes de jeunes gens qui partent affronter la mitraille. Et on n'est pas du tout dans un plan moyen, on est dans un plan d'ensemble dans lequel finalement on a la petitesse finalement d'une espèce, mais aussi une espèce de grandeur collective qui reste complètement fascinante. Et qu'on va ressentir aussi d'ailleurs dans le Seigneur des Anneaux, dans les grandes batailles, quand justement on prend de la distance par rapport aux combattants et que c'est les petitesses individuelles se sont substituées finalement à la grandeur collective, par exemple, lors des grandes scènes de combat, quand on voit les chevaliers du Rohan qui vont essayer donc de défendre finalement donc les assiégés. Je ne sais pas qui n'a pas des frissons à ce moment-là, parce que c'est nous qui sommes sur les chevaux, voilà. En tant qu'auteur ou en tant que lecteur ou en tant que spectateur, voilà.
Oui, il ne faut pas oublier non plus que les récits de guerre, même s'ils parlent d'événements réels, sortent de la tête de quelqu'un aussi. C'est toujours la vision de leur auteur. Même si c'est un témoignage qui se veut aussi exact et précis que possible, même si l'auteur ne veut pas mentir et c'est vraiment de dire la vérité, c'est quand même son interprétation à lui. Après, c'est le talent des auteurs qui fait que bah, on y croit ou pas. Et si vous n'avez pas assez cru à Tolkien, c'est peut-être que Tolkien n'est pas un auteur pour vous, ou alors que ça montre les limites du talent de Tolkien, je ne sais pas. Mais
nous vous remercions de votre attention et merci encore à nos auteurs, à nos quatre auteurs qui nous ont donné vraiment des réflexions très intéressantes sur un sujet plus merveilleux que science fiction.